enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Prenez vos Bibles et tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, chapitre 14. L'Évangile de Matthieu, le 14e chapitre. Et si vous n'avez pas de Bible ce matin, les versets vont apparaître, le message va apparaître à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans la parole de Dieu, l'Évangile de Matthieu, le 14e chapitre. Depuis le début de l'année et depuis le 21 jours de jeûne et de prière, j'avais ces deux séries de messages qui brûlaient sur mon cœur. Le besoin d'amener un message, une série de messages sur la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi... Et ça brûlait énormément, il y avait pas ce combat, mais cette réflexion, cette prière en moi, ce besoin d'amener un message pour enseigner le peuple de Dieu à trouver la bénédiction au milieu de la tempête. Et depuis le début de l'année, il y a toujours des tempêtes dans nos vies, mais depuis le début de l'année, j'avais le cœur touché avec compassion par les tempêtes que plusieurs, des centaines de personnes de l'Église traversent, et de regarder la parole de Dieu ensemble pour découvrir les clés de Dieu, à savoir comment trouver la tempête. Que vous communiquez l'espoir, vous communiquez des révélations de Dieu afin de transformer vos tempêtes en triomphe devant Dieu. Pouvez-vous dire amen? Alors, on va regarder ensemble la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Je vais commencer à lire notre texte. Et nous allons regarder ce matin, il va y avoir 3 messages, 5 clés et 3 messages, commençant ce matin. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Ensuite, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Verset 23. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Et la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmené, et le mot grec exact est tourmenté par les vagues, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, n'ayez pas peur, ne craignez pas, c'est moi. Et Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer ou à être submergé, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers et dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Il le suppliait afin de toucher seulement le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Seigneur, je prie maintenant pour un esprit de révélation, que comme ton esprit a touché des centaines de personnes dans la première rencontre ce matin, je te prie maintenant, toi le Dieu personnel, qui sait le nom, la vie, la tempête, l'épreuve, les circonstances de chaque personne dans ce lieu ce matin, que tu puisses venir, Seigneur, nous communiquer un esprit de force, un esprit de révélation, et apprends-nous à trouver, Seigneur Dieu, ta bénédiction dans la tempête. Nous déclarons, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, nous déclarons que ton amour est plus grand que toutes les attaques qui viennent contre nous. Nous déclarons que ta parole est plus grande que tous nos problèmes, que tes délivrances sont plus grandes que toutes nos difficultés. Et nous réclamons maintenant un ciel ouvert et une onction de bénédiction sur ton peuple dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. et amen. Déposez vos Bibles un instant et avec vos deux mains, donnez une main d'acclamation au Seigneur. Allez! Avant de vous asseoir, dites à la personne près de vous qui a besoin de l'entendre, Dieu a une bénédiction pour toi dans la tempête. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et vous pouvez prendre place par la suite. Comment trouver la bénédiction? Comment trouver la bénédiction dans la tempête? Un des privilèges, une des joies, une des opportunités extraordinaires que j'ai eues dans ma vie, a été, parce que je parle anglais et français, que je peux traduire, a été de servir le Seigneur pendant de nombreuses années comme traducteur et de pouvoir ainsi avoir le privilège de côtoyer des hommes de Dieu merveilleux. Des hommes comme le pasteur David Wilkerson, où j'ai eu le privilège de traduire plusieurs fois des pasteurs, pasteur Jim Cimbala, pasteur Jack Hayford, pasteur Tommy Barnett, des hommes que si, lorsque les historiens vont regarder à l'histoire de l'Église, comme nous on lit l'histoire du passé, lorsque les historiens vont regarder à 1950 aller jusqu'à 2010, ils vont regarder aux hommes de Dieu, certains des hommes de Dieu qui ont marqué le monde, ils vont parler de ces hommes comme des hommes qui ont été une inspiration, qui ont touché la vie de dizaines et centaines de milliers de personnes. Et moi, j'ai eu le privilège de les côtoyer, de parler avec eux, de prier avec eux, d'apprendre d'eux. Et une des choses que tous ces hommes ont en commun, et une des choses que tous les chrétiens qui marchent avec le Seigneur depuis un certain temps ont aussi en commun, c'est que nous avons tous le même témoignage, qui peut sembler paradoxal au premier coup d'œil. Mais tous ces hommes de Dieu, dans des moments d'intimité, dans des moments de partage, dans des moments de mentorat où ils partageaient leur cœur avec moi, tous sans exception vont expliquer, vont raconter, vont témoigner que, au fond de leur cœur, lorsqu'ils regardent à leur vie, ils sont reconnaissants à Dieu pour leur tempête. J'ai pas eu d'amen, mais je vais continuer quand même un petit bout de ça, vous allez voir. À 9h, ils ont dit amen mieux, mais je vais pas vous mettre de pression. J'aimerais vous dire ceci, vu qu'on est en famille, j'aimerais vous dire que le vieux pasteur, à 43, à la deuxième réunion, aurait besoin d'un petit amen spontané une fois de temps en temps. Juste de temps en temps, ça ferait, non, je veux pas, I don't want to grovel, but you know, une fois de temps en temps, ça ferait du bien. Ces hommes de Dieu-là vont vous raconter que c'est dans les tempêtes qu'ils ont grandi le plus, dans les tempêtes qu'ils ont découvert des choses sur Dieu, que rien d'autre ne leur avait appris, que dans les tempêtes, ils ont trouvé des racines encore plus profondes en Dieu, que dans les tempêtes, ils ont découvert des interventions miraculeuses de Dieu, dans les tempêtes, ils ont éprouvé la fidélité de Dieu, l'affection de Dieu, qu'en sortant d'une tempête, ils ont vécu des délivrances, des libérations, que lorsque j'ai sorti du feu de la tempête, il y avait quelque chose qui avait changé en moi. J'étais plus forte, plus fort, plus près de Dieu. J'étais plus en communion avec lui. Et chacun d'entre eux vous dirait aussi, comme je vous dis aussi, que lorsque nous regardons au pèlerinage de nos vies, que très souvent, précédant nos moments de plus grande bénédiction, que les moments de percée, les moments de bénédiction sont souvent précédés par une période de tempête. Que les tempêtes souvent nous permettent, nous équipent. Il y a des choses qui doivent être changées en nous, des choses qui doivent être libérées en nous, des choses qui doivent être cassées en nous, des choses qui doivent être fortifiées, élargies en nous. Et beaucoup d'entre nous, comme les disciples ont sorti de leur tempête encore secoués, mais ils sont arrivés à Génézaret, comme on a lu dans notre texte, et tout à coup, ils ont vécu un moment miraculeux. Tous les malades qui sont guéris, un déploiement d'onction, un moment qui a marqué leur vie, qu'ils n'oublieraient jamais, qu'ils n'auraient jamais voulu manquer. Et nous ne sommes pas masochistes. La majorité, tout le monde ici, il y a une portion de nous qui voudrait simplement vivre nos vies paisiblement, en paix, bénis, jusqu'à la fin de nos jours, sans tambour, ni trompette, ni tempête. Mais la majorité d'entre nous avons découvert que c'est rarement dans les moments ordinaires ou les moments de plateau, c'est rarement dans les moments de bénédiction, même je dirais, mais c'est rarement dans les moments gras durs. Où je suis assis sur le bord de la piscine avec mon thé glacé, les deux pieds sur la table, en train de tomber à renverse dans la piscine en regardant mon chèque d'augmentation. C'est rarement dans ces moments-là que les grandes révélations, la grande soif de Dieu, la grande passion de Dieu, l'intercession s'empare de mon âme. Mais combien ont vécu que lorsque je traverse la tempête, il y a quelque chose en moi qui crie vers Dieu et est capable de faire une œuvre en moi. C'est amen. Si vous arrivez à saisir ceci, vous allez regarder vos tempêtes d'une manière différente. Si vous arrivez à saisir ceci, que lorsque la tempête arrive, je veux en sortir, mais lorsque je suis dans cette tempête, je réalise à chaque fois, Dieu a des choses à m'apprendre, Dieu veut me fortifier, Dieu me prépare, Dieu veut m'enlever un certain bagage, Dieu veut me fortifier, et plus la tempête est intense, plus je sais, parce que c'est mon témoignage de vie avec lui, plus je sais que de l'autre côté de la tempête, enfin, la tempête, c'est une trompette qui annonce que Dieu s'apprête à t'amener dans une saison d'encore plus grande bénédiction. Et ça, la parole de Dieu l'enseigne d'un couvert à l'autre. Dans le livre de Osée, chapitre 2, nous lisons, « C'est pourquoi je vous conduirai dans le désert, et là, je parlerai à vos cœurs. » Qu'il y a une relation, une communion, une révélation de Dieu qui est donnée à ceux qui vivent des moments de tempête ou de désert. Dieu dit même, « Là, du désert, de l'endroit de tempête, de l'endroit du désert, je lui donnerai des vignes au lieu de sa vallée de larmes. J'ouvrirai là, dans le désert, j'ouvrirai pour toi une porte d'espoir. Et vous trouverez là un champ du désert. » J'aimerais vous dire qu'il est précieux pour Dieu, le chant des hommes et des femmes qui chantent dans le désert. Ah, il y a un chant qui est là dans nos bouches et Dieu aime la louange qui monte vers lui. Mais il y a un segment du peuple, il y a un type de croyant qui n'a un chant dans sa bouche. Et il y a un chant qui est là, qui est spontané, qui est naturel. Lorsque ça va bien, lorsque je suis victorieux, lorsque je traverse un moment de montagne et que tout est stable dans ma vie, que tout est sécuritaire et tout se passe exactement comme je pensais. Et je lève ma voix et je mets ma cassette de louange et je chante. Et Dieu prend plaisir à cela. Mais il y a quelque chose qui touche le cœur du Père, qui touche le cœur de Dieu. Lorsqu'il y a un homme ou une femme qui traverse la vallée des larmes, la vallée de Baca, et qui offre le sacrifice de louange parce qu'elle adore Dieu, il adore Dieu, non seulement pour qu'est-ce que Dieu lui donne ou lui donne pas, mais adore Dieu pour qui il est, pour sa fidélité, parce qu'il est digne et il est grand. Et Dieu recueille ce chant du désert comme une odeur devant lui d'amour et de fidélité. Dieu qui dit, lorsque tu vas traverser ton désert, si tu te laisses façonner par moi, si tu lèves ton cœur vers moi, je vais t'apprendre le chant du désert. Et voici, là c'est tellement puissant, voici, en sortant du désert avec la porte d'espoir ouverte devant toi, un chant nouveau sur ta bouche, parce que je vais avoir parlé à ton cœur. Voici, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras mon bien-aimé. Celui qui m'aime, me protège, prend soin de moi. Dieu dit, tu vas sortir de la tempête avec des racines plus profondes, avec une communion plus grande avec moi. Tu vas avoir découvert des choses au sujet de mon amour envers toi, au sujet de mon engagement envers toi. Tu vas avoir découvert des choses concernant combien je t'aime, que tu n'es pas seulement un pion sur l'échiquier du royaume de Dieu. Tu n'es pas seulement un serviteur, puis moi je suis le maître. Non, 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 Dieu dit, tu vas découvrir dans le désert, dans la tempête, que je suis ton époux, que je t'aime et que je m'occupe de toi. Puis tu vas en sortir en disant, il n'est pas seulement un Dieu supérieur, il n'est pas seulement un maître, il est celui qui m'aime, qui me protège et qui prend soin de moi. Quelqu'un devrait dire amen. L'Ecclésiaste dit, tous les hommes vivent des tempêtes. J'ai observé que le même sort les atteint tous. La pluie tombe sur le juste ou sur l'injuste. Mais l'insensé marche dans les ténèbres, il demeure dans ses ténèbres. Mais il y a une sagesse qui est plus grande. Il y a une lumière qui perce les ténèbres. Tu dis, vous pouvez passer toute votre vie à traverser vos tempêtes et à demeurer toujours dans les ténèbres. Mais le désir de Dieu, c'est que tu trouves une certaine sagesse, que tu trouves une lumière dans les ténèbres et dans tes tempêtes. Nahum, le prophète, a dit, l'Éternel est grand et il est puissant, mais l'Éternel fraye son chemin au milieu des tempêtes. L'Éternel nous apprend son chemin, nous apprend ses voies dans la tempête. En anglais, il dit, « The Lord has his ways in the storms. » Dieu a ses plans. Dieu a des desseins, Dieu a sa façon d'agir, Dieu a ses messages, Dieu a ses leçons, Dieu a son façonnement, Dieu a sa formation. Il y a une œuvre qu'il veut faire dans ta vie au milieu des tempêtes. Et le prophète Ésaïe, dans un contexte, vous lirez chapitre 1 et 2 à la maison, un contexte de tempête, d'ennemis, de tumulte, une tempête où il y avait un contexte où il y avait une tempête partout autour, annonce, proclame, dévoile l'intention de Dieu pour des rencontres comme ce matin, pour notre série de messages, c'est 3 messages, c'est 5 clés, lorsque dans le prophète Isaïe, il dit, il arrivera à la fin des temps, que des peuples nombreux diront, c'est la diapo 14, il arrivera à la fin des temps, que des peuples nombreux diront, allons ensemble à la maison de Dieu, afin qu'il nous apprenne ses voies, et que nous apprenions à marcher dans ses sentiers. Et je veux déclarer par la foi que dans ces 3 réunions et dans ces 5 clés ensemble, il y a un peuple qui est ici, qui va apprendre les voies de Dieu. Vous dites avec moi ce matin, c'est pour ça que je suis venu. Allons ensemble à la maison de Dieu, et à cet endroit-là, on va apprendre à connaître notre Dieu. On va apprendre à traverser nos tempêtes. On va apprendre à trouver, à posséder et à répandre la bénédiction dans la tempête. Quelqu'un devrait dire « Amen » dans ce lieu ce matin. 5 clés, 3 messages, 5 clés afin de trouver la bénédiction au milieu des tempêtes. Clé numéro 1, la foi de sortir de la barque. Clé numéro 2, le focus de garder nos yeux sur lui. Ça, c'est ce matin. Dans les prochains messages, le feu pour se relever après être tombé. Clé numéro 4, la fidélité qui nous permet de tout remettre entre ses mains. Clé numéro 5, le façonnement qui prépare le surnaturel. La clé numéro 1 pour trouver la bénédiction dans la tempête, c'est la foi de sortir de la barque. Les disciples virent marcher sur la mer, Matthieu 14, verset 26. Ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Au milieu de la tempête, la voix du Seigneur appelle. Vous appelle à venir à lui, à le servir, à marcher avec lui. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le récit commence vers les 6 ou 7 heures le soir, tout de suite après la multiplication des pains. C'était la 4e veille de la nuit environ. On peut les imaginer, chacune des veilles durait 2 heures. On peut imaginer qu'il est 2 ou 3 heures du matin. On peut imaginer ces hommes qui étaient des hommes de mer, des marins qui avaient grandi avec les légendes de la mer, grandi en maîtrisant la mer, avaient vécu des dizaines de tempêtes auparavant. On peut les imaginer pendant de longues heures essayant de négocier la situation eux-mêmes. On peut imaginer l'apôtre Pierre donnant des ordres à tout le monde, racontant tous ses exploits de mer passée. On peut imaginer tout ça qui prend place, mais la Bible nous dit qu'après un certain temps, il y a un épuisement qui est dans leurs âmes. Leurs propres forces ne suffisent plus et que les vagues les tourmentaient. La tempête est à ce point sévère, ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes. Jésus, ils étaient dans la volonté de Dieu, ils n'étaient pas hors de sa volonté, c'est Jésus qui les avait envoyés. Et alors que Jésus les a envoyés sur la mer, la tempête fait rage et Jésus apparaît avec une parole et leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre sort de la barque et va vers le Seigneur. Moi, j'ai une conviction. Bon, premièrement, j'aimerais faire cette confession ce matin. J'aimerais vous confesser à quel point j'ai une grande affection pour le personnage de l'apôtre Pierre. Les théologiens sont souvent très durs avec lui. Moi, j'ai entendu beaucoup de sermons très tranchants sur l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre souvent disait des grandes déclarations fracassantes, puis il y avait de la difficulté à les suivre par la suite. Dites à quelqu'un près de vous, inquiète-toi pas, il ne parle pas de toi. L'apôtre Pierre, souvent, était haut en désir, mais bas en solidité et en capacité. Bas en capacité à tenir ses promesses. L'apôtre Pierre, si tu te mets à prendre tous ses moments de faiblesse, c'est comme un top 10 de faiblesse. C'est lui, il était souvent à côté, il était obligé d'être repris par le Seigneur. Le Seigneur Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, tu es influencé par Satan dans ce que tu dis là. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur. L'apôtre Pierre est retourné à ses bateaux. L'apôtre Pierre a toujours toutes ses faiblesses. Et j'ai entendu plusieurs prédications, dans certains cercles en particulier, qui parlent d'une foi parfaite, la foi parfaite qui obtient parfaitement, etc., qui peigne le royaume de Dieu comme si tu as la foi, tu vas être prospérité et paix et autorité seulement, et une espèce de perfection spirituelle. Et là, j'ai entendu souvent des messages, puis là, l'apôtre Pierre, il a sorti de la barque, mais il a manqué de foi, alors il a coulé, et etc., et le Seigneur est obligé de le relever encore une fois. Savez-vous, moi, lorsque je lis ce texte-là, ce qui brûle sur mon cœur, ce que j'ai le goût de crier, au moins, il était sorti de la barque. Dites à quelqu'un près de vous, sors de la barque. Dites ça à la personne près de vous. Get out of the boat. Je n'ai pas beaucoup de patience ou d'affinité avec la gang qui reste dans la barque. Toujours sécuritaire dans la barque de la critique facile, la barque de ceux qui font jamais rien, donc ne se trompent jamais. Tu t'emmènes n'importe quand ça vous tente. La barque de ceux qui regardent les autres faire et qui ont leur carte de pointage, la barque de ceux qui ne s'impliquent pas, la barque de ceux qui ne donnent pas, ne chantent pas, n'aiment pas, ne servent pas, ne placent pas, ne prient pas, n'évangélisent pas, sont toujours dans la barque de la sécurité et regardent les autres qui coulent, regardent les dons couler encore une fois. Oh, je dis, gloire à Dieu, au moins, il avait sorti de la barque et la voix de l'Esprit dit, sors de ta barque ce matin et ose marcher avec foi. Quelqu'un devrait dire amen. Je veux annoncer ce matin avec reconnaissance que le Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un de parfait avec une vie aseptisée, parfaite, sans problème. Combien considèrent comme une bonne nouvelle que Dieu peut se servir de gens même s'ils ont des tempêtes dans leur vie? Je vais vous dire une première chose extrêmement importante que vous devez. La foi de sortir de la barque, c'est une foi qui dit, je n'attendrai pas qu'il n'y ait plus de tempêtes dans ma vie pour sortir de la barque avec foi. N'attendrai pas que ma vie soit parfaite pour servir Dieu, pour faire quelque chose, pour y aller, pour servir, pour oser répondre à sa voix. Au milieu de la tempête, la voix de Jésus l'a appelé. Tous les autres ont décidé de rester dans la barque. Et Pierre a dit, moi, j'y vais. Je réponds à l'appel de Dieu. C'est une des choses qui me trouble énormément, parce que j'encontre des gens qui me disent, bon, ben j'ai ce grand appel sur ma vie, j'ai cette vision, un jour, je vais faire quelque chose, mais je veux attendre que les choses soient vraiment réglées. Je veux que tout soit correct. Je veux que ça soit en paix. Je veux attendre plus tard. Il y a une tempête en ce moment, alors je peux pas m'impliquer. Est-ce que vous comprenez que le royaume de Dieu se fait par des hommes et des femmes qui passent des tempêtes? Est-ce que vous comprenez avec douceur que si vous attendez qu'il n'y ait pas de tempête pour commencer à servir, vous servirez jamais sur cette terre? Est-ce que vous comprenez que la grâce de Dieu, c'est que le Dieu parfait se sert d'hommes et de femmes qui traversent des tempêtes, mais qui osent, au milieu de la tempête, sortir de la barque et dire, je sais que j'ai une tempête en ce moment, mais je veux répondre à l'appel de Dieu. Vous devriez dire amen. La deuxième phase de cette deuxième étape de cette foi qui sort de la barque, c'est une foi qui dit, je ne retournerai pas dans la barque parce qu'il y a une tempête. Voilà, c'est moi le pasteur avec vous, comme si on était assis ensemble avec un café dans le salon. J'aimerais vous dire ceci. J'ai vu des milliers d'appels être avortés. Des gens qui avaient commencé avec brio, avec passion pour Dieu. Des gens qui avaient un fruit à leur vie. Des gens qui servaient Dieu. Et Dieu se servait d'eux. Et Dieu les utilisait grandement. Puis tout à coup, une tempête arrive pendant qu'ils sont dans le service pour Dieu. Une tempête émotive, une tempête personnelle. Ils vivent une épreuve, ils vivent une déception dans l'église. Ils vivent quelque chose dans leur couple, dans leur mariage. Ils vivent quelque chose dans leur propre vie. Il y a cette tentation qui est propre à chacun d'entre nous de s'isoler, de se retirer, de laisser faire. Il y a une tempête, alors moi je retourne dans la barque. J'avais répondu à l'appel du Seigneur, j'avais été le servi, j'avais répondu à son appel, je marchais avec lui, et là je retourne dans la barque. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux prendre un temps d'arrêt, je vous donne un peu de sagesse ici. Je suis pas en train de dire que c'est pas, ça peut pas arriver à quelqu'un de dire, bon, mais il se passe quelque chose dans ma vie, je veux prendre un temps de repos pour mieux revenir. Mais je crois qu'il y a aussi une trappe dans laquelle des milliers sont tombés. Des hommes et des femmes qui ont connu des blessures, qui souvent ne mesuraient même pas eux-mêmes, ont connu des blessures, des déchirements, des déceptions. Et la première réflexe, c'est de retourner dans la barque, de ne plus être là, de ne plus répondre à l'appel de Dieu. Et souvent, c'est très, très pernicieux, c'est très insidieux. Ça se fait pas extérieurement. Les gens ne se lèvent pas au milieu d'une réunion dimanche pour dire « Attention tout le monde, je veux plus servir Dieu, et là, je vais ouvrir mon cœur au péché, et je m'en vais dans les choses du monde, puis dans quelques années, je vais être éloigné complètement des choses de Dieu, puis je vais renier tous les engagements que j'ai faits devant Dieu. » Non, non, non. C'est fascinant pour moi dans le texte que l'enseignement de Jésus concernant les tempêtes est suivi immédiatement par un avertissement extrêmement important. Vous le regarderez à la maison, mais Matthieu 14 et 15, l'enseignement de Jésus au milieu de la tempête est suivi par l'avertissement concernant les péchés qui souillent un homme et détruisent les plans de Dieu dans sa vie. Il y a dans Matthieu 14 l'enseignement des tempêtes, il y a dans Matthieu 15 cette description du Seigneur Jésus qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il décrit quelqu'un qui peut-être est ici ce matin ou qui va entendre ce message à la radio et qui est dans la maison de Dieu. Vous êtes là. Faites peut-être même lever vos mains et chanter pendant quelques minutes, mais vous savez qu'il est possible d'être là et que vous êtes quelqu'un qui a vécu une tempête. Vous vous êtes retiré, vous êtes en train de retourner dans la barque. Vous passez de la ferveur que vous aviez à une certaine froideur de cœur. Personne ne voit peut-être extérieurement. Et cette froideur de cœur, si elle n'est pas ramenée devant Dieu, peut vous amener à une folie, peut vous amener à ce cœur qui s'éloigne peu à peu de Dieu. Vous savez, nous ne devrions pas nous sanctifier parce que nous sommes actifs pour Dieu. Nous devrions nous sanctifier et être purs devant Lui parce que nous l'aimons et nous voulons Lui obéir et nous voulons l'honorer et Lui plaire. Nous ne devrions pas prier parce que nous sommes actifs pour Dieu. Nous devrions prier pour être simplement en communion avec Lui, que nous soyons actifs ou non. Mais chacun d'entre nous qui répondons à l'appel de Dieu et qui sommes actifs pour le Seigneur, savons que d'être actifs pour Dieu très souvent nous motive puissamment à nous sanctifier et à chercher sa face. Peux-vous dire amen? Il y a des choses que je ne me permettrai pas parce que je veux honorer Dieu, mais aussi parce que je suis au service pour Lui. Alors il y a cette tentation insidieuse de ceux qui retournent dans la barque, de ceux qui ne servent plus, de ceux qui dont le cœur s'éloigne, de se permettre des choses maintenant, de baisser leur garde au niveau sanctification, de se permettre des pensées, des attitudes, des conduites, des paroles, des comportements. Et Jésus peint un portrait terrifiant de quelqu'un qui a des lèvres qui semblent l'honorer, mais son cœur est déjà loin de lui. Il dit, c'est ce qui vient du cœur. Ce qui souille un homme, c'est ce qui vient de son cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, la rancœur, les haines, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. J'aimerais vous dire que dans la tempête, la voix de Dieu qui vous appelle à sortir de la barque, même si tu traverses une tempête, sors de la barque, continue avec Lui, serre-le, marche avec Lui, réponds à son appel, regarde au modèle de Jésus. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Vous pouvez lire les évangiles et vous avez là Dieu, parfaitement Dieu, dans un homme qui était entièrement homme. Et Jésus a été tenté en toutes choses. Et dans les chapitres précédents, l'enseignement de la tempête, nous le voyons, lui, vivre toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de bouleversements, toutes sortes de déchirements. Nous le voyons dans le chapitre 11, et je traverse les chapitres qui mènent jusqu'à la tempête. Nous voyons alors que Jean-Baptiste doute de qui il est. De voir Jean-Baptiste qui doute, est-ce que c'est toi ou on devrait en attendre un autre? Tempête de doute, les villes qui refusent de se repentir et qui l'opposent. 12-14, les leaders religieux qui l'attaquent, le menacent, veulent le détruire, le tuer, alors qu'il a guéri un homme le jour du sabbat et transgressé leur loi religieuse aveugle et stérile. Le moment où Jésus entre dans le temple, il guérit un homme, était malade, et là il est guéri, il touche une guérison nouvelle. Et au lieu de se réjouir, les gens qui sont autour se mettent à l'opposer, ils veulent le tuer. Il y a quelque chose qui déchire un croyant, qui déchire un leader spirituel, lorsqu'en toi, il y a un sentiment que tout ce que j'ai voulu faire, c'est servir Dieu. Toutes ces années, j'ai voulu servir Dieu. Et regarde la tempête d'opposition qui vient contre moi. Les gens qui sont ici, qui ont vécu cela. Et Jésus est là, tenté en toutes choses, traversant sa propre tempête, traversant ses propres tempêtes. Ceux qui avaient été les plus proches de lui ne le comprennent pas. Ne comprennent pas ce qu'il fait. Sa mère, ses frères viennent. Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'il fait. Ils viennent à opposer ce qu'il fait, ne pas comprendre, à vouloir l'arrêter. Et il y a quelque chose de tellement tentant de juste retourner dans la barque de l'inactivité et dans la barque du « laissez-moi tranquille » lorsque toi, tu as un cœur qui veut juste servir Dieu. Et parfois, les gens les plus proches de toi ne comprennent pas l'appel de Dieu sur ta vie. Ne comprennent pas ce à quoi Dieu t'appelle. Et Jésus traverse cette tempête. Il est rejeté à Nazareth. Leur aveuglement et leur incrédulité attachent et lient littéralement le Fils de Dieu. Il ne peut pas faire là plusieurs miracles à cause de leur incrédulité. Imaginez-le, alors qu'il retourne dans sa ville natale, retourne à l'endroit où il a grandi, retourne parmi les gens qu'il connaît le plus, à l'endroit où il veut voir la gloire de Dieu exploser. Quel déchirement, quelle tempête, lorsque ceux qui étaient le plus proches le rejettent, le lient littéralement, leur incrédulité. Leur incapable de faire le miraculeux. Tempête. Et tout de suite avant la multiplication des pains, nous avons Jésus qui apprend le fond, la toile de fond au message de la tempête précédé par la multiplication des pains et Jean-Baptiste qui est décapité. Alors qu'on annonce la mort de Jean-Baptiste, Jésus voit un chemin de mort qui se trace devant lui, un chemin de tempête qui se trace devant lui. Et le Fils de Dieu a toutes les opportunités de retourner dans la barque, de se retirer, d'arrêter. Mais j'aimerais vous dire qu'après toutes ces tempêtes, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver Jésus qui se tourne vers la multitude. Les disciples ne veulent plus rien savoir. Seigneur, renvoie-les. Mais lui est touché par de compassion et il se met à guérir et à aimer et à servir et à toucher et à continuer. Et j'aimerais annoncer à chaque personne qui est ici qu'une des plus grandes guérisons que vous pouvez trouver dans votre tempête et de continuer à servir le Seigneur, à continuer à répondre à son appel. Vous allez marcher sur les eaux et en guérissant d'autres, quelque chose va vous arriver à vous. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est une clé pour trouver la bénédiction de Dieu. Il y a une dame qui a pris le cours d'enseignement de la parole, de communication de la parole de l'ITF que j'ai donné cette session. Elle vient de l'extérieur, vous avez 2 heures de route pour venir prendre le cours. Elle m'a donné ce témoignage il y a quelques semaines lors d'un des cours précédents. Puis hier, c'était le dernier cours, puis elle est venue me voir et m'a raconté un peu de ce témoignage. Elle m'a écrit ce témoignage et elle me bénit parce qu'elle représente des milliers de personnes qui, alors même qu'ils vivent la tempête, sont sortis de la barque et ont continué à répondre à l'appel de Dieu. Lorsque je regarde à l'Église Nouvelle Vie, les choses qui m'émulent plus, c'est que partout à travers l'Église, il y a des gens que moi je connais la tempête de leur cœur. Le papa qui est ici ce matin, qui a vu son fils vivre un accident de taux tellement grave que son fils passe un cheveu de la mort et dans le coma, puis il y a tout un poids qui est sur lui, mais qui continue à servir Dieu, qui continue à marcher sur les eaux, continue à répondre à l'appel du Seigneur au milieu de la tempête. La maman qui est ici ce matin, qui a vécu des déchirements terribles dans sa propre santé, mais qui continue à servir Dieu. Le couple qui est ici, qui est ici ce matin, qui ont vécu des changements financiers terribles, des tempêtes financières. Dans les derniers 5 ans, le salaire était là, puis à travers toutes sortes de choses qui sont hors de leur contrôle, la compagnie, le salaire baisse de moitié ou baisse du 2/3. Et tout en eux voudrait dire, je veux juste m'isoler, je veux juste avoir la paix. Mais lui continue à servir les enfants dans cette église. Elle continue à servir dans tout ce que Dieu l'appelle à faire. Cet homme qui vit un déchirement dans sa propre famille, et a vu son mariage éclater, mais qui continue par la grâce de Dieu à aller servir le Seigneur, à marcher, à continuer. J'aimerais vous dire, le royaume de Dieu avance par des hommes et des femmes qui, même s'ils sont dans une tempête, sortent de la barque et répondent à l'appel avec foi. Cette femme dans mon cours m'a écrit ce témoignage qui m'a vraiment touché. Grande simplicité, mais qui m'a beaucoup touché. Elle écrit, cher pasteur Roud, merci pour l'Institut de théologie pour la francophonie. Merci pour le cours communication de la parole. Je suis une infirmière de carrière chrétienne depuis 10 années. Il y a 2 ans, j'ai vécu une épreuve terrible. Mon mari est amoureux de 27 ans de mariage, heureux, est décédé victime d'un infarctus foudroyant. Je croyais mourir moi aussi. Notre fils est marié, est chrétien lui aussi, mais il a été bon avec moi. Mais il est vraiment occupé et il habite à Québec. Je me suis retrouvé extrêmement seul. J'avais beau essayer de me raisonner, la dépression me remplissait. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse pour la première fois de ma vie. Un dimanche, j'étais assise à l'église encore en larmes, lorsque j'ai vu une femme en avant de moi qui pleurait, elle aussi. Alors que je la regardais, notre pasteur a dit, « Allez vers quelqu'un, prions les uns pour les autres. » Sans réfléchir, j'ai été prié pour elle. Je l'ai invitée à dîner après la réunion. Je l'ai écoutée et encouragée dans ses épreuves. Elle est une maman monoparentale avec 3 enfants. 2 semaines plus tard, notre pasteur m'a appelé. Nous avons un groupe de 4 femmes qui ont besoin d'un leader. J'ai entendu parler du bien que tu as fait à notre sœur, qui l'avait appelé pour lui dire, est-ce que mon micro fonctionne encore? Et à ce moment, vous étiez pour me le dire?
Dites à la personne, celle-là va marcher. Ça fait 2 fois que je noie le micro dans les dernières semaines. Dites à la personne près de vous, quand son micro ne marche pas, il faut que tu lui dises. Dites ça à la personne près de vous. Dites à la personne de l'autre côté, même si tu n'es pas sûr que tu voudrais qu'il continue à parler, mais dis. Chaque fois que mon micro marche pas et que vous dites rien, j'ai un soupçon que ça vous arrange de plus m'entendre. Je suis sûr que c'est pas ça. Cette dame, alors qu'elle est dans sa propre douleur, se tourne vers une autre dame de l'église, simplement pour la soutenir, pour l'aider. Le pasteur l'appelle et lui dit, « Il y a un groupe de femmes de l'église qui ont besoin d'une leader. J'ai pensé à toi parce que l'autre dame m'a appelé pour me dire comment tu lui avais fait du bien. » Elle répond, « Ma première pensée a été, c'est moi qui a besoin d'être consolé. » J'ai vraiment eu la pensée aussi sur mon cœur, c'est en répondant à l'appel que je vais peut-être guérir moi aussi. Elle dit, Pasteur Claude, on a commencé, puis je l'ai rencontré hier, elle dit, Pasteur Claude, on a commencé avec 4 femmes, et 1 an plus tard, on est 30 femmes dans le groupe. Cette dame qui, elle-même, traversait une tempête, a répondu à la voix de Dieu, puis elle a commencé à sortir de la barque, même du milieu de sa douleur,
puis elle communique la vie. Est-ce que vous comprenez que ceux qui ont vécu le désert ont quelque chose à dire à ceux qui passent le désert? Dieu m'a complètement prise par surprise. Je parlais du groupe avec ma patronne à l'hôpital, c'est une infirmière, et elle me dit, je veux que tu fasses une conférence ici pour les intervenants. Ça fait 3 conférences que je fais et je parle de dépression, de solitude, du burn-out, mais j'ai aussi le droit de parler d'espoir et de ma foi. On me laisse parler de ma foi librement. Il y a aussi des églises qui m'invitent. Je suis tellement surprise et tellement bénie. Je prends le cours de communication de la parole afin de m'améliorer dans ma communication et la préparation de mes messages. Elle écrit ceci. Le plus fou, c'est que j'ai toujours eu un rêve secret de parler en public pour le Seigneur. Lorsque mon mari est décédé, j'ai pensé que ma vie était finie. Mais aujourd'hui, j'ai encore de la peine. Je pense à lui. Je pleure parfois, mais je veux vous dire, Pasteur Claude, que je ne souffre plus d'angoisse. Je suis en paix. Je suis épanouie. J'ai confiance en l'avenir et je suis tellement heureuse de servir Dieu. Je veux vous dire qu'il y a une dame qui était là, qui a sorti de la barque et au milieu de la tempête, a entendu la voix de Jésus qui a dit, n'aie pas peur, c'est moi. Réponds à mon appel. Et cette dame marche sur les eaux. Et Dieu vous appelle aussi à sortir de la barque, quelle que soit la tempête, et à répondre à son appel. Est-ce que vous êtes capable de dire amen? Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi, Seigneur, ta grâce m'appelle? Clé numéro 1, pour trouver la bénédiction dans la tempête, la foi de sortir de la barque. Clé numéro 2, la dernière ce matin, le focus de garder nos yeux sur lui. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, voyant que le vent était fort. L'apôtre Pierre entend la voix de Dieu au milieu de la tempête, la voix de Jésus. Et les autres ne voient qu'un fantôme, les autres ne voient que crainte, ne voient que les vagues. Mais l'apôtre Pierre fixe ses yeux sur le Seigneur Jésus. Et alors qu'il regarde au Seigneur Jésus toute la fidélité de Dieu, il le regarde dans la personne de Jésus et il entend la parole de Jésus qui lui dit, n'aie pas peur, c'est moi, viens. Et alors que son cœur est imprégné de la parole de Jésus et de la personne de Jésus, tu peux voir l'apôtre Pierre qui est comme transporté, il est comme porté. Et beaucoup d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a des moments où vous avez lu la parole ou été à l'église dans une réunion, vous avez été dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a comme une assurance de la fidélité de Dieu qui est là. La voix de Dieu s'est fait entendre et la parole de Dieu, Dieu vous donne une parole. Puis cette parole-là, elle est vraie, puis elle vous donne du courage. Et comme porté, l'apôtre Pierre sort de la barque et vous pouvez imaginer les autres qui le regardent faire alors qu'il sort de la barque. Je ne sais pas s'il l'a fait ou non, mais je peux presque imaginer Pierre se retourner de bord pour regarder les copains en arrière. Vous regardez, je marche sur l'eau. Parce qu'il a les yeux fixés sur le Seigneur. La parole le fortifie et tout en lui est confiance. Même s'il y a une mer houleuse sous moi, les bras de Dieu me portent. J'avance avec Dieu. Jusqu'au moment où la Bible nous dit qu'il a commencé à voir autour. Commencé à voir le vent qui était autour. Commencé à voir autour de lui toutes sortes de choses qui le vent, pas le clapotis, le fracas des vagues qui frappaient sur la barque. Commencez à voir la peur autour. Et la Bible nous dit que lorsque ses yeux ont été enlevés de ce Seigneur, il s'est mis à couler. Il s'est mis à s'enfoncer comme submergé par la tempête qui l'entourait. Je vais vous dire ceci. La clé numéro 2 pour entrer et trouver la bénédiction de Dieu dans la tempête, c'est d'avoir notre focus spirituel sur la personne et sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, l'œil n'a pas vu. Tes yeux ne peuvent pas le voir. L'oreille n'a pas entendu. Le cœur de Dieu, le cœur de l'homme ne peut pas concevoir les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Elles sont révélées par le Saint-Esprit. C'est à partir du cœur de l'homme que l'on connaît les choses de l'homme. Mais c'est seulement à partir de l'Esprit de Dieu que l'on peut connaître les choses de Dieu. Et l'Esprit nous apprend avec un langage spirituel, nous apprend à discerner. Les choses de l'Esprit sont folies pour notre être charnel, parce qu'elles sont seulement trouvables, voyables par la révélation du Saint-Esprit. Je vais vous dire ceci, lorsque vous traversez une tempête, l'Esprit de l'homme va vous faire connaître les pensées de l'homme. Lorsque vous traversez une tempête, c'est ce qu'il y a en vous, dans votre humanité, qui va ressortir. C'est votre arrière-plan, vos carences, votre passé, vos blessures, vos insécurités, ça peut être familial, spirituel, tout ce qui a fait que vous êtes qui vous êtes. Lorsque nous traversons une tempête et que nous enlevons nos yeux sur le Seigneur, les pensées de l'homme révèlent les choses. L'esprit de l'homme révèle les pensées de l'homme. La peur monte, l'angoisse monte, la critique monte, l'arrogance monte, la jalousie monte, le désespoir, le découragement, l'apitoiement monte en nous. Alors qu'on regarde aux vagues autour, alors qu'on regarde aux circonstances, c'est ces choses-là. L'angoisse, le sentiment de petitesse. Tout le monde ici a déjà, plusieurs d'entre vous avaient déjà vécu que dans la parole et la personne de Dieu, il y a un appel sur votre vie. Puis vous y croyez, puis c'est vrai. Puis vous voyez le faire. Puis vous sortez tout à coup du bateau. Vous en êtes surpris vous-même. Vous sortez du bateau. Puis vous répondez à l'appel de Dieu. Et vous commencez à marcher sur l'eau. Comment est-ce que les personnes ici qui ont déjà marché sur l'eau, vous avez déjà fait quelque chose qui vous était absolument impossible. Vous en êtes sorti. Vous l'avez fait à cause de la grâce et de la bonté de Dieu. Oui? Mais la Bible nous dit que, alors qu'on sort, si nos yeux ne sont plus sur lui. Vous avez vécu ça vous aussi? Surtout dans un moment où là, tout à coup, tu regardes à ta petitesse, à ton incapacité. Tu regardes aux vagues autour. Et là, c'est l'esprit de l'homme qui monte. L'humanité, la peur, l'angoisse, les craintes. Je serai jamais capable. Qu'est-ce que j'ai pensé là? Je peux jamais me sortir de ci. Celle-là va me détruire. Je peux pas me sortir. Regarde tous ceux qui sont contre moi. Comment je vais me sortir de ça? Et Dieu dit, voici ce que je veux faire. Par mon Saint-Esprit, je veux te faire voir ce que tu verrais pas autrement. Je veux t'enseigner les réalités spirituelles par mon esprit. Ce que l'œil ne voit pas, ce que le cœur ne peut pas imaginer, est révélé et enseigné par le Saint-Esprit. L'aveugle est venu à Jésus, alors j'arrive à la fin du message. L'aveugle est venu à Jésus, complètement aveugle de naissance, comme nous étions tous aveugles spirituels. Est-ce que vous comprenez que même si vous étiez très religieux, ou que vous soyez une personne qui avait aucune pensée pour la religion, ou vous étiez très religieux, avant d'être né de l'esprit, d'être chrétien, d'être né de nouveau, nous étions entièrement aveugles à toutes les richesses de la bonté de Dieu. L'aveugle est complètement aveugle et Jésus le touche. Alors que Jésus le touche, Jésus lui dit, que vois-tu? Et avant, je ne voyais rien du tout, mais il dit, maintenant, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Comprenez-vous que cet homme, c'est vous et c'est moi. J'étais complètement aveugle avant, et Jésus m'a touché. Je suis né de nouveau. Mais maintenant, il voyait, avant, il voyait rien du tout. Mais je vois pas les choses distinctement. Je vois pas les choses correctement. Je ne vois pas les choses comme je devrais les voir. Et la Bible nous dit, Jésus le toucha une seconde fois dans Marc chapitre 8. Jésus le toucha une seconde fois, lui demandant, que vois-tu? Il dit, maintenant, je vois les choses telles qu'elles sont vraiment. Je voudrais vous proposer que la clé pour trouver la bénédiction, une clé pour trouver la bénédiction dans la tempête, c'est qu'alors que je viens dans la présence de Dieu, c'est la vision pour la réunion de ce soir. La réunion, lorsqu'on dit réunion de l'esprit, une réunion pour ce soir, la vision, c'est tout un peuple qui vient et prend le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et alors que vous vous avancez, bien, les équipes d'hommes et de femmes qui sont là pour prier pour vous, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Il y a une illumination qui remplit votre cœur. Ce qui avant, vous ne connaissiez pas, vous ne pouviez pas voir. Il y avait seulement la peur, seulement les vagues, seulement le découragement. Vous voyez les choses de manière floue, comme des arbres qui marchent. Mais là, l'Esprit de Dieu s'empare de toi, te touche et tu vois les choses telles qu'elles sont vraiment. Tu vois les réalités de l'Esprit et les promesses de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. L'aveugle, qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois les choses telles qu'elles sont vraiment. Pendant que les musiciens s'approchent, j'arrive à la fin du message. Tous les hommes de Dieu de l'histoire ont vécu ces moments. Jérémie, le prophète, dans le chapitre 1 et 2, est dans un moment de grande tempête. Mais c'est des tempêtes de l'âme. Combien d'entre vous avez vécu qu'il y a des tempêtes qui sont extérieures, que ce soit la maladie ou que ce soit des attaques qui sont très virulentes, qui nous font mal. Mais combien ont vécu les tempêtes du cœur, les tempêtes des pensées, les tempêtes de l'angoisse, les tempêtes du sentiment d'incapacité humaine qui peuvent faire tout aussi mal? C'est ça qui vit Jérémie. Il y a un jugement, il y a toutes sortes de choses qui sont autour, il y a un tumulte, il y a des guerres. Et dans le chapitre 1, il y a Dieu qui, avec amour, plaide avec lui. Jérémie, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, tu vas parler pour moi et je vais être avec toi. Non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas y aller. Jérémie, c'est la jeune personne qui est ici, qui regarde à son avenir et qui dit, je serai pas capable. C'est la personne qui a ce péché dans sa vie qui s'accroche et pour la xième fois a considéré essayer de faire un pas pour en être délivré, mais tout en lui dit, je serai pas capable. C'est le célibataire qui dit, est-ce que je vais être seul toute ma vie, je serai pas capable. C'est la personne qui la maman monoparentale, c'est la personne qui fait face à un appel qui, je sais qu'il est de Dieu, mais je me sens incapable de l'accomplir. Jérémie est là dans le chapitre 1, puis la tempête frappe son âme, tourmente son âme. Et Dieu, avec douceur, lui dit, Jérémie, vas-y, je serai avec toi. Non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, je suis trop jeune. Jérémie, je vais détruire tous tes ennemis devant toi, je vais les repousser, je vais te protéger. Non, Seigneur. Jérémie avait perdu son focus. Alors Dieu lui dit, Jérémie donne son témoignage, puis dit, la parole de l'Éternel me fut adressée une première fois, et le Seigneur me demandant, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, j'ai vu une marmite bouillonnante qui s'apprêtait à déborder. Jérémie voit le jugement, voit la marmite, voit la tempête autour de lui. Et comprenez bien ceci, c'était vrai. C'était pas juste un pessimiste, c'était pas juste quelqu'un qui était en névrose. Jérémie annonce le jugement qui s'en venait, et dans les chapitres qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, les historiens l'attestent, le jugement est venu. Je ne suis pas en train de dire que votre tempête n'est pas réelle. Je ne suis pas en train de dire que de traverser un déchirement familial, ou de faire face à un cancer, ou de vivre une déception terrible dans mon ministère, ou d'avoir une opposition humaine, ça fait pas mal, c'est pas vrai, c'est pas réel. La tempête était vraiment réelle. La marmite bouillonnante était vraie. Mais Dieu dit, Jérémie, regarde à nouveau. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. L'aveugle fut touché une seconde fois. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Il me dit, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche comme celle d'un amandier. Saqued, dans l'hébreu. Et le mot saqued, la branche d'amandier, c'était à la fin d'un long hiver où tout était froid, où le sol avait été dur, impénétrable, comme si rien ne peut pousser, complètement stérile, sans vie, sans fruit. La première branche qui poussait, qui perçait la glace et qui apparaissait, c'était la branche d'amandier. On l'appelait saqued, et le mot veut dire l'annonceur de la vie, le proclamateur de la vie. Non, dans mes notes, c'était marqué que vous diriez amen à ce moment-ci. L'annonceur de la vie. Que vois-tu, Jérémie? Moi, je vois une marmite qui déborde. Que vois-tu, Jérémie? Alors que son focus revient sur Dieu. Je vois qu'au milieu des marmites qui débordent, il y a aussi un Dieu qui annonce la vie. Que Dieu est capable de faire traverser le sol stérile, et au milieu des marmites débordantes, il y a un Dieu qui dit, n'aie pas peur, c'est moi, je t'appelle à moi. Pouvez-vous dire un grand amen ce matin? Focus. Foi et focus. Je vais terminer avec ceci. Il y a deux semaines, pas dimanche dernier, l'autre dimanche d'après, il y a un monsieur qui est venu me rencontrer ici, puis qui me dit, lorsque j'ai vu, je l'ai reconnu. Il s'appelle Théo. C'est un monsieur dans la soixantaine. Il était avec sa femme. Et je pense qu'un fils et une fille. Il y avait deux couples qui étaient là. Son fils et sa fille qui sont mariés. Puis ont leurs petits-enfants aussi. Tout le monde est chrétien. Ils viennent d'Europe. Et Théo vient au moins une fois par année à l'église Nouvelle-Vie. Il aime beaucoup l'église Nouvelle-Vie. Puis à chaque fois, il me rappelle. Puis ça me stimule. Il m'a dit encore la semaine dernière. Puis commençait à raconter comment que lui, il est revenu au Seigneur sous mon ministère. Il me racontait ça dans des circonstances très particulières. Parce que tout le monde l'appelle Théo, mais son vrai nom, c'est Théophile. Et moi, je trouve que c'est un nom magnifique. Et de des années, alors que j'étudiais la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, j'ai découvert que les Actes, c'était Luc qui écrit à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Il dit, je t'écris au Théophile toutes les choses que Jésus a commencé à faire. Et moi, j'ai toujours aimé le nom Théophile lorsque j'ai découvert que le nom Théophile veut dire amoureux de Dieu. C'est un super beau nom. Alors, pendant des années, lorsque j'étais évangéliste, j'allais dans les églises, et vous savez, je vous donne un secret, c'est pas comme ça ici en famille, mais parfois, parce que ça va vers l'Europe bientôt, parfois, tu vas dans des églises, les gens ne te connaissent pas, sont d'une autre, pour toutes sortes de raisons, t'arrives, et t'as tout un groupe de personnes qui a les bras croisés par-dessus les bras croisés, les sourcils froncés par-dessus, c'est comme une convention de personnes qui mordent dans des citrons. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde est comme ça. En ce moment, tout le monde qui a les bras croisés se décroise les bras à travers la salle. Puis moi, c'est une des affaires qui m'aidait à essayer de passer à travers. Mettre un sourire un peu sur les lèvres des gens. Je disais toujours quelque chose du genre, j'arrivais puis je disais, comme j'aime le nom Théophile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une femme enceinte dans ce lieu? Puis là, il y avait parfois une madame qui levait sa main timidement. Puis je disais, madame, vous êtes enceinte. Est-ce que vous savez si c'est un garçon ou une fille? Si vous aviez un garçon, est-ce que je pourrais vous convaincre de l'appeler Théophile? Et j'ai jamais réussi à convaincre une seule maman de l'appeler son garçon Théophile. Si vous appelez Théophile, vous êtes béni, mais il n'y a pas beaucoup de mamans qui ont cette vision-là d'appeler leur garçon Théophile. Et ce jour-là, je suis arrivé et je m'apprêtais à faire exactement ça parce que j'avais besoin de faire sourire les gens qui étaient là. C'était un besoin dramatique. Alors je m'apprêtais à faire mon affaire Théophile. Et je ne savais pas qu'il y avait un homme qui était là, Théo. Son nom, c'est Théophile. Mais lui, 5 ans auparavant, était complètement rétrograde. a laissé les choses de Dieu, a vécu des choses qui l'ont coupé en morceaux dans l'Église, a vécu des injustices, a vécu des choses qu'il a vues, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui l'ont tellement rempli de révolte, qu'il est non seulement retourné dans la barque, c'est quelqu'un qui était très actif dans son Église, non seulement est-ce qu'il est retourné dans la barque, mais son cœur s'est refroidi, s'est rempli de colère, d'amertume, de délaissé, s'est éloigné des choses de Dieu, souillé les plans de Dieu dans sa vie, et il était devenu un ennemi des églises. Il détestait, parlait avec colère du peuple de Dieu, parlait avec colère de l'église. Sa famille n'allait pas à l'église. Personne n'allait à l'église. Et personne n'a réussi à l'amener à l'église. Mais ce jour-là, quelqu'un lui avait dit dans les jours auparavant, il y a un Canadien qui vient prêcher à l'église. Et lui, il aimait les Canadiens parce que les Canadiens avaient débarqué en Normandie, avaient aidé les Français sous les nazis et tout ça. Alors lui, alors que la France était occupée, il n'aimait pas les Américains, mais il aimait les Canadiens. Alors, parce que c'était un Canadien, moi je crois que c'était les plans de Dieu, il est décidé de venir écouter la réunion, écouter ce Canadien, mais il a mal vu le ça n'avait pas l'heure exacte du début de la réunion, et lorsqu'il est arrivé, les chants étaient terminés, il venait juste d'arriver, il s'assoit à l'arrière, les bras croisés, et le Canadien commence à parler de Théophile. Mais au lieu de faire mon Théophile habituel, toutes les autres fois, je disais, Théophile, y a-t-il une madame enceinte ici, Théophile, j'aime le nom Théophile, amoureux de Dieu, combien de Théophile dans ce lieu? Ce soir-là, je suis arrivé, et là, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Je crois que c'est une parole de connaissance, mais c'était très particulier. Parce qu'il est venu un sanglot dans mon cœur. J'ai commencé à dire, « Oh, Théophile! T'étais un amoureux de Dieu, Théophile! Tu aimais Dieu! » Je me surprenais moi-même, mais c'est ça qui sortait de moi. « Théophile! T'es un amoureux de Dieu! Tu as connu Dieu, mais tu t'es éloigné de lui! » Théophile, tu l'aimais tellement, tu servais Dieu, mais t'as laissé ces choses entrer dans ton cœur. Théophile, Dieu veut te ramener à lui. Théophile, reviens à lui ce soir. Lorsque tu as une façade, tu as un masque, mais lorsque t'es couché, c'est chez toi le soir, et que t'as convaincu tout le monde que tu étais bien sans Dieu, il y a un vide dans ton cœur. Théophile, amoureux de Dieu. Et moi, j'avais aucune idée que c'était un vrai Théophile. J'avais juste pensé que c'était simplement des rétrogrades. Alors, j'ai commencé, puis je n'étais pas capable d'aller dans mon message du tout. J'ai pas prêché ce soir-là. Le pasteur était nerveux, il m'a regardé dans la première rangée. « Vas-tu prêcher? » J'ai dit « Non, je vais maintenant faire un appel. » J'ai appris que c'était un genre d'église qui faisait même pas jamais d'appel en avant. Je savais pas. Alors, j'ai fait un appel. « Vous êtes rétrograde ici. Approchez-vous. » Et lorsque le monsieur est descendu, il y a des gens qui le connaissaient qui se sont mis comme à crier. « C'est Théophile! C'est Théophile! » Et lorsque j'ai prié pour lui, puis ils ont enregistré la réunion, puis lui a conservé la cassette. Parce que j'ai prié pour lui, une des choses que je lui ai dit qui me rappelle presque à chaque fois. La parole de Dieu en moi, pour lui, par le Seigneur a été. Et tout ce que tu as perdu, et les années que tu as perdu, si tu reviens à lui, Dieu va t'y redonner au double, il va t'y redonner au triple. Et ce soir-là, il est revenu au Seigneur entièrement. Et là, il était là il y a quelques semaines pour me dire, ça fait 12 ans que je suis revenu au Seigneur. Je suis entre le double et le triple. J'avais été parti 5 ans, je suis entre le double et le triple. Je suis revenu à Dieu. Dieu a appelé mon nom, Théophile. Quelqu'un devrait dire Amen. Je veux vous dire ce matin, Dieu a appelé le nom de Pierre. Dieu a appelé Jérémie. Dieu a appelé Théophile. Mais Dieu appelle votre nom à vous ce matin. Il appelle ton nom. Il dit, je t'appelle à moi. Tu as mis tes yeux ailleurs que sur moi. Ton cœur s'était refroidi. Tu as eu peur dans la tempête. Tu t'es éloigné dans la tempête. Tu ne voyais que les marmites bouillonnantes autour de toi. Mais voici, je t'annonce la vie. Une branche de vie. Tu as regardé aux vagues et tu as eu peur. Tu étais aveugle et tu ne voyais plus clairement autour de toi. Je veux appeler ton nom ce matin. Mettre une touche de mon esprit sur toi. Afin que ce que ton œil ne voyait pas, ce que ton cœur ne pouvait pas concevoir, tu puisses le voir maintenant. La révélation de ce que j'ai préparé pour toi. La bénédiction au milieu de la tempête. J'aimerais vous demander de pencher la tête et fermer les yeux. J'ai un appel que j'aimerais faire très particulier. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, Pasteur Claude, ce message-là était pour moi. J'ai vécu des tempêtes et elles ont laissé des marques, elles ont laissé des traces, elles ont laissé des cicatrices. Vous êtes ici ce matin et vous avez vécu des tempêtes. Vous êtes ici ce matin et vous dites, Seigneur, je suis dans une tempête en ce moment même. Vous êtes dans une tempête en ce moment même. le Seigneur vous appelle. Il dit, si tu as vécu une tempête, tu étais tenté ou tu as retourné dans la barque, où tu es ici ce matin, tu dis, j'ai perdu mon focus, je ne voyais que les marmites débordantes, je ne voyais que les tempêtes autour de moi, les vagues qui frappaient sur moi, j'étais presque submergé. Mais ce matin, je veux répondre à l'appel de Dieu avec foi au milieu de ma tempête. Et je veux cette touche de l'esprit afin de voir ce que Dieu me promet que je ne peux pas voir autrement. Vous avez vécu une tempête qui a laissé des marques, ou vous êtes dans une tempête en ce moment. J'aimerais vous demander, là où vous êtes, à votre place, de vous lever en sa présence. Juste de vous lever pour dire, me voici Seigneur. J'étais dans une tempête. Des marques ont été laissées sur moi. Je suis dans une tempête présentement. J'ai de la difficulté à voir autre chose que la marmite bouillonnante et débordante. Mais je veux entendre ta voix. Je veux mettre mon focus sur toi. Levez-vous là où vous êtes, partout à travers ce lieu. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent partout dans ce lieu. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Et alors que vous êtes debout dans la présence de Dieu, ceux qui sont assis, j'aimerais que vous ouvriez les yeux un instant et regardez à ces hommes et ces femmes qui sont debout partout dans la salle. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et homme avec homme, femme avec femme, est-ce que vous pouvez aller les trouver? Est-ce que vous pouvez aller vous approcher de lui ou d'elle? Frère avec frère, sœur avec sœur, et mettre votre bras sur son épaule. Parce que nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour tous ceux qui traversaient cette tempête. Pour tous ceux qui ont été laissés dans la tempête. Alors que nous sommes ensemble en sa présence. Commençons à prier les uns pour les autres. Allez-y, commencez à prier les uns pour les autres. Et Seigneur, je prie pour chaque personne dans ce lieu ce matin. Je prie pour les personnes qui ont traversé une tempête. Il y a des traces qui ont été laissées sur eux, des marques, des cicatrices sur leurs âmes. Et je te prie ce matin au nom de Jésus. Ô mon Dieu, que tu viennes les toucher, les fortifier. Que tu viennes, Seigneur, leur montrer qui tu es. Je prie pour les personnes qui ne voyaient que les marmites débordantes de la furie, de la peur, de l'angoisse. Que ce matin, tu prononces une parole de vie. Tu dis à chaque personne, c'est moi. N'aie pas peur. Je suis en contrôle de toutes choses. Je te tiens dans mes bras. Je te recueillerai, je te soutiendrai. Et Seigneur Dieu, je prie qu'une parole de vie soit communiquée à leur cœur. Une parole d'espoir. Une parole que cette tempête ne fait qu'annoncer la grandeur de Genézaret de l'autre côté de la rive. Qu'il y a une rive de bénédiction qui va m'attendre de l'autre côté du lac de la tempête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Souffle la vie sur les cœurs. Souffle la consolation sur les cœurs. Souffle le courage sur les cœurs. Souffle la révélation, la paix, la guérison, la consolation, le calme divin. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, je vais continuer à marcher, à répondre à ton appel. Je n'irai pas dans la barque. Je vais marcher avec toi. Je vais répondre à toi. Je vais entendre ta voix. Et je veux voir surnaturellement ce que je ne pourrais pas voir autrement dans le nom de Jésus. Et vous qui recevez la prière en ce moment, commencez à parler à Dieu et à dire, vers toi Seigneur, je lève ma voix. Vers toi Seigneur, et commencez à lui dire, reçois ma louange, je veux t'offrir un chant dans le désert. Je veux t'offrir un chant de louange. Commencez à lui parler. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer. Reçois Seigneur comme un doux parfum. L'amour est le chant de mon cœur. Tu vas m'apprendre un chant dans le désert. Je ne serai pas seulement un pion sur l'échiquier du royaume de Dieu. Je ne suis pas seulement un serviteur, mais je vais, Seigneur, à travers cette tempête, te découvrir comme mon époux, comme celui qui s'occupe de moi, celui qui m'aime, me protège et me soutient. Vers toi, Seigneur, je monte, fais monter ma louange, je fais monter mes prières, que ce soit un chant si doux. Que ce soit un chant si doux, mon Dieu, à ton oreille. Laissez-moi entendre la louange, vos voix, vos cœurs qui commencent à monter vers Dieu. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Yeah.
enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.